Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Bon samedi à tous et bienvenue à cette autre édition, enfin c'est la deuxième de l'émission Paroles en musique, ici Raymond Perron, et je suis bien sûr en très bonne compagnie avec mon ami et collègue Marc Wickfield. Bonjour Marc.
Bonjour Raymond.
Vous avez eu une bonne semaine.
Oui, ça fait une très très bonne semaine, merci.
C'est agréable de voir arriver le samedi parce que on se dit, il y a une expression qui dit... Thank God it's Friday, but Sunday's coming. Hein? Mais on peut aussi remercier le Seigneur parce que c'est samedi, parce que demain c'est dimanche. Et le jour du Seigneur, pour nous croyants, c'est extraordinaire parce que c'est l'occasion par excellence où on se réunit avec les autres concitoyens du royaume, hein, où on parle le même langage, où on a les mêmes valeurs et on se sent vraiment chez nous. En fait, un culte d'église, lorsque bien compris, Mac, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un morceau d'éternité, hein. C'est une espèce d'avant-goût de ce que nous allons vivre dans l'éternité future.
On est en famille.
Absolument. Amen. Mm-hmm. Alors, aimons nos églises et soutenons-les. N'est-ce pas? C'est tellement pathétique de voir des gens qui professent la foi et qui ne vont pas à l'église. Comment peut-on aimer la tête de l'église et dire non, je ne suis pas intéressé par le corps? Pour reprendre l'expression biblique elle-même, hein, comment peut-on dire j'aime Dieu que je ne vois pas et je suis incapable de blairer les frères que je vois? Ceci étant dit, mon cher Mac, nous allons bien sûr aujourd'hui concentrer nos regards, nos esprits, nos âmes et nos cœurs sur un autre grand hymne. Et je ne vous dirai pas nécessairement pourquoi, je vous le dirai peut-être hors des ondes, mais c'est un de mes favoris, c'est un hymne qui a eu un très grand impact dans ma vie personnelle. Alors c'est, et je vous laisse dire le titre parce que vous avez moins d'accent que moi.
Le chant s'appelle « Great is thy faithfulness ».
Amen, yes.
C'est un chant qui est écrit par Thomas Chisholm, un homme qui est mort seulement à 94 ans, donc un homme qui a connu une longue vie. Et avant qu'on fasse la traduction, on va écouter ce chant. On va écouter Danny Gaither, le frère de Bill, qui va chanter « Great is thy faithfulness ».
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning. Peace that endureth thine. your presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. My faith still holds unto the Christ of Calvary.
Alors voilà une version assez simple, assez claire de « Great is thy faithfulness ». Je vais vous traduire les paroles de ce chant. « Grande est ta fidélité, ô Dieu mon Père. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation en toi. » Ça vient directement de Jacques. Hein?
Mm-hmm.
« Tu ne changes pas, tes compassions ne manquent jamais. Comme tu as toujours été, tu le seras toujours. » Et puis le refrain « Grande est ta fidélité, grande. » Et ta fidélité, chaque matin, je vois de nouveaux exemples de ta miséricorde. Tout ce dont j'ai eu besoin, ta main l'a fourni. Grande est ta fidélité, Seigneur, envers moi. L'été et l'hiver, le printemps et la moisson, le soleil, la lune, les étoiles dans leur sentier en haut, tous se joignent à la nature entière par de multiples témoignages à ta grande fidélité, ta miséricorde et ton amour. Le pardon pour le péché est une paix qui perdure. Ta propre chère présence pour me réjouir et me guider. La force pour ce jour et l'espérance qui brille pour mes lendemains. Ces bénédictions sont toutes à moi, sans compter les 10 000 autres.
Mmh.
Voilà. Voilà un beau chant. Hein?
Quel cantique, en effet. Je me souviens, dans les premières années de ma conversion, je fréquentais l'église évangélique baptiste ou baptiste évangélique, je ne me souviens pas, de Marieville à l'époque. Et il y avait une chorale qui chantait ce cantique-là et ça venait me chercher à chaque fois. Et j'ai eu l'occasion de retrouver la bénédiction de ce cantique-là après mon cours intensif de grec à Toronto. Je ne parlais ni grec ni anglais et j'ai pris mon premier cours de grec en anglais. J'étais certain de l'avoir coulé ou, comme on dit en bon québécois, de l'avoir poché, n'est-ce pas? Mais miracle des miracles, je suis arrivé même premier de la classe. Alors, je m'en allais sur la 401 en chantant « Great is thy faithfulness » parce qu'effectivement, Dieu avait été, encore une fois, d'une une magnanimité, d'une bonté à toute épreuve.
C'est un chant qui est pas mal proche en français aux paroles de l'anglais. Un des quelques-uns.
C'est vrai. Et c'est dommage parfois qu'on reste pas fidèle à l'idée de l'auteur, hein, original. Très, très souvent, on prend la mélodie parce qu'on l'aime bien, parce que c'est une très belle mélodie, effectivement. Mm-hmm. Et on met un message tout autre. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, de rendre l'idée de l'auteur, là. Mais celui-là, en effet, on n'y était pas trop loin. Oui. Et ça nous parle, bien sûr, de la fidélité de Dieu. Une réalité sur laquelle on peut vraiment se reposer. Dieu est fidèle. C'est une constante dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et comme vous le mentionniez précédemment, Mac, on retrouve dans la première strophe, effectivement, une citation libre de Jacques, chapitre 1, verset 17, qui nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On parle fidélité ici. Ni changement, même pas une ombre de variation. Et cette strophe reprend aussi le verset 19 à 25, les versets 19 à 25 de Lamentation 3, où on retrouve « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. » Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, bien sûr, parfois il nous arrive d'avoir l'âme abattue, et comme il est bon de se rappeler que Dieu est fidèle, de plonger nos regards dans sa parole et de nous laisser consoler, réconforter, repositionner par ses promesses, sachant que ses promesses sont, oui et amen, que Dieu est fidèle à ces promesses-là. La deuxième strophe, elle fait référence à la fidélité de Dieu dans sa providence. Qu'est-ce que ça veut dire la providence de Dieu, hein? Bon, la providence de Dieu, c'est que Dieu a tout créé, bien sûr, et qu'il soutient toute chose. Et c'est ce dont la deuxième strophe mentionne, c'est ce à quoi elle fait référence. Et la fidélité de Dieu nous assure que les étés, que les saisons vont se succéder et que sa fidélité demeure la même tout du long. Genèse chapitre 8, verset 22 nous dit « Tant que la terre subsistera ». En fait, c'est après le déluge, l'alliance noaïque, l'alliance que Dieu fait avec Noé. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu est fidèle avec nous dans sa démarche salvifique, dans le fait qu'il nous garde, dans le fait qu'il nous conduit, et il est fidèle également à l'égard de toute sa création. Et la troisième strophe, si je peux la retrouver, nous parle effectivement du salut un peu plus directement. Le pardon pour les péchés et la paix qui dure et ta douce présence qui nous guide, la force pour aujourd'hui, l'espérance pour demain, toutes ces bénédictions sont miennes avec tellement d'autres encore. Quelle belle réalité exprimée en une si grande économie de mots, si je peux utiliser l'expression. Vous savez, Marc, le mot « fidélité » dans l'Ancien Testament, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai pris quelques jours de retraite et j'ai lu les psaumes. J'en lisais 10 et j'allais prendre un certain temps pour les prier par la suite. Et je les lisais avec le texte hébreu tout à côté. Et j'ai réalisé avec stupéfaction, enfin j'avais déjà eu vent de cela, mais là je l'ai réalisé encore davantage, à quel point le mot « fidélité » dans les psaumes est lié au mot « vérité ». Et à quel point le mot « fidélité » et « vérité » sont liés tous deux au mot « alliance ». Dieu qui fait alliance avec son peuple, une alliance de vérité, et il est fidèle à son alliance. D'ailleurs, on a une pléthore de témoignages bibliques eu égard à la fidélité de Dieu. La promesse de Dieu à Abraham, par exemple. Dans Romains chapitre 4, versets 19 à 21, nous lisons « Et sans faiblir dans la foi, Il, Abraham, ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, c'était plus un jeune premier, là, hein? Il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nous lisons également dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité, encore une fois, de celui qui avait fait les promesses. » Dieu est un Dieu fidèle. Nous lisons dans Nombres, chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Alors, Dieu n'est pas comme nous, hein. Nous, très souvent, nous pouvons, en fait, nous faisons plus que pouvoir, nous manquons souvent à notre parole, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Le prophète Ésaïe, d'ailleurs, s'écriait, chapitre 25, verset 1, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Dieu est fidèle à ses desseins, il est fidèle à ses promesses. Et le livre des psaumes, je le mentionnais tantôt, regorge et truffé de passages qui font référence à la fidélité de Dieu en lien avec son alliance. L'alliance, le beau concept de l'alliance qu'on lit entre autres dans Jérémie, chapitre 31, verset 34, où Dieu dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » C'est Dieu qui parle ici, il ne nous dit pas si vous êtes gentil, si je vous trouve fin, si je vous trouve suffisamment obéissant, si vous êtes suffisamment attrayant pour attirer ma faveur, si vous m'apportez des petites bonnes œuvres en guise de petits biscuits qui vont m'attendrir. Non, voici ce que je promets, je mettrai au-dedans d'eux ma loi, je l'écrirai dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire littéralement, je donnerai à mon peuple un cœur pour la loi. Tous ceux que Dieu sauve, fidèlement, il leur donne un cœur pour la loi. Et il nous dit, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Le Nouveau Testament aussi, vous savez, il est rempli de témoignages à la fidélité de Dieu. À commencer, bien sûr, par la naissance miraculeuse de Jésus. On se souviendra que l'ange apparaît à Joseph, parce que lorsque Joseph apprend que sa fiancée est enceinte, il est profondément troublé. Hein, on serait à moins. Et voilà qu'un ange lui apparaît dans Matthieu, chapitre 1, verset 22-23. Et là, il nous est dit, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Le Seigneur l'avait annoncé, le Seigneur est fidèle, donc si ça a été annoncé, ça va forcément arriver, rien ne peut venir contrer la volonté de notre Dieu. Et en fait, la promesse, hein, elle date de Genèse, chapitre 3, verset 15. Nous appelons Genèse, chapitre 15, chapitre 3, verset 15, le proto-évangile, le premier évangile. Immédiatement après la chute, Dieu qui est fidèle fait une promesse à laquelle il va demeurer fidèle. Qu'est-ce qu'il dit, Marc, hein? Il va dire à la femme et au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme, entre sa postérité et ta postérité. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. » Et c'est précisément la postérité de la femme, hein, Jésus lui-même qui descend de la femme, qui vient, hein, le Dieu qui s'incarne, qui vient écraser la tête de l'ennemi, la tête du serpent, et nous apporter ainsi le salut. C'est une promesse inconditionnelle. Il n'y a pas de « si » dedans. immédiatement après la chute, Dieu aurait très bien pu choisir littéralement de, passez-moi l'expression, de flocher la création, hein, de l'évacuer complètement, de la détruire, mais non, il a décidé de se racheter un peuple parmi les descendants des hommes pécheurs, parmi ces gens-là, de se racheter un peuple, et ce n'est pas au conditionnel, c'est une promesse, voici ce qui va se produire. C'est la raison pour laquelle aussi, on retrouve tout au long du Nouveau Testament des invitations à venir au Seigneur Jésus-Christ. On se souvient lorsque Paul était en prison et que, bon, il chantait des cantiques, hein, et à un certain moment, miraculeusement, les portes des prisons, la prison, il y a un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, et le geôlier voulait littéralement se zigouiller, hein, parce qu'il s'est dit, lorsqu'on laissait évader les prisonniers à l'époque, vous savez, on recevait pas un bonus, hein, les conditions de travail, le syndicat pouvait pas trop défendre votre cause dans ces cas-là. Alors, là, Paul, ne fais pas cela, et le geôlier, finalement, se met aux genoux de ces deux apôtres-là et dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et la réponse est la suivante, et j'espère que si vous n'êtes pas encore un croyant, vous allez l'écouter attentivement et réfléchir très sérieusement à cette parole que Paul leur dit. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Non pas crois que Jésus existe, hein? Bien sûr, ça commence par là. Mais on n'a même pas besoin de foi pour croire que Jésus existe. C'est un fait historique, hein? Crois au Seigneur Jésus veut dire littéralement crois qui est Jésus. Crois en l'œuvre que Jésus a faite et tu seras sauvé. Quelle œuvre est-ce qu'il a faite, Mac, Jésus, en croix, en passant? Pourriez-vous me résumer cela? À vos propres mots, je vous prends un brûle-pourpoint, là, je vous mets sur la sellette. Hein?
Ce que Christ a fait pour nous en croix.
Oui.
Mais bon, c'est-à-dire, d'après les Écritures, il est devenu péché, lui qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu.
Amen.
C'est ça, je trouve merveilleux, la justice, non seulement le pardon, mais la justice de Dieu en lui.
Absolument. Et vraiment, cette justice-là, nous ne pouvions pas, nous, l'amener à Dieu.
Mm-hmm.
Seule la justice de Dieu pouvait satisfaire Dieu.
Tout à fait.
Et il nous la donne par la foi. Quand Martin Luther a compris cela, hein, il a quitté le monastère assez rapidement.
Mm-hmm.
Donc, merci, Mac. La fidélité de Dieu dans le pardon de nos péchés aussi. Alors, on voit la fidélité de Dieu dans le salut, on voit la fidélité de Dieu dans la providence, la fidélité de Dieu dans le pardon de nos fautes. Parce qu'une fois qu'on est sauvé, on n'arrête pas de facto de pécher. Luther disait « Simul justus et peccator ». Ça, c'est du latin qui veut dire « à la fois juste et pécheur ». 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » OK? Je pense que ça va à peine être répété. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » La Bible ne nous dit pas « ben plutôt que de dire cela, dites que vous commettez quelques petits impairs ou des petits accros. » Non, nous sommes des pécheurs. Et tant qu'on n'a pas admis cela, vous voyez, il n'y a pas de cure possible. Hein? Alors donc, 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité, parce qu'elle existe, contrairement à ce que prétendent les postmodernes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et que dire? Mais que dire de la magnifique doxologie que nous retrouvons dans la première lettre de Paul aux gens de Thessalonique, là, chapitre 5, versets 23 et 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais on dit, c'est une tâche impossible. C'est la raison pour laquelle le verset ne s'arrête pas là, mais continue ainsi. « Celui qui vous a appelé est fidèle. Great is his faithfulness. » Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu a toute une panoplie de moyens à sa disposition pour nous transformer, à commencer par l'épreuve, hein, qui est une bénédiction, soit dit en passant. Alors, il a toute une panoplie de moyens à sa disposition pour nous transformer et pour nous faire croître. On pourrait bien sûr aller encore dans l'Épître aux Hébreux et parler de la correction paternelle. Hein, c'est comme un père que Dieu vous châtie. Ou encore repenser à ce que Jacques nous écrit, une de mes portions d'écriture favorite. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 où il nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir à rien. Dieu est fidèle. Il nous envoie les moyens de croissance, hein, comme des examens à la fin de la session, là, pour voir où nous en sommes, et il nous transforme à travers cela. D'ailleurs, c'est un verset tout en couleurs, soit dit en passant. Le verset nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Vous savez, Marc, que c'est le mot polypoikoula, ce qu'on retrouve ici, qui est le même mot utilisé pour la robe de Joseph, le fils de Jacob. Une robe de toutes les couleurs. Alors, considérez comme un sujet de joie complète lorsque vous en voyez de toutes les couleurs. Et puisque nous sommes dans le grec poursuivant, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, c'est le verbe péripipto. On sait ce que péri veut dire, hein, un périscope pour voir autour. Pipto veut dire tomber. Péripipto, c'est le verbe qui est employé pour la parabole du bon samaritain lorsqu'un homme tombe au milieu des brigands. Il a péripipté, voyez-vous. Alors, lorsque nous sommes entourés d'épreuves, partout où on regarde, il n'y a que des épreuves. L'apôtre nous dit, déprimez pas, les gars, hein? Au contraire, regardez cela comme un sujet de joie complète, parce que d'abord, la grâce du Seigneur va être suffisante pour cela, et Dieu va vous faire grandir. On entend souvent dans le monde des propos vides, vous en convenez? On entend des gens dire, ah, moi, ça m'est arrivé, mais je sais que ça arrive pas pour rien. Mais là, c'était pour quelque chose, ok? Mais qui décide de ce but-là? Qui agit derrière tout cela? Vous voyez? Même l'incrédule, ou celui qui prétend être incrédule, confesse quelque part qu'il y a un Dieu derrière les circonstances, qu'il y a un Dieu souverain qui gère, qui administre sa création. Bien, voilà ce que j'avais à vous raconter, mon cher Mac, sur ce magnifique cantique « Great is thy faithfulness ». Et connaissant votre verve, je sais que vous avez quelque chose à ajouter là.
Merci, Raymond. Je trouve que c'est un cantique, il y en a plusieurs, mais c'est un cantique qui mérite un « Amen » à la fin. De nos jours, on ne chante pas beaucoup d'Amen dans nos églises après nos cantiques. C'en est un, je trouve. Mais je voudrais vous parler un peu de son historique, pour ce qui est de son historique. Tandis que beaucoup de nos cantiques sont des produits d'expériences dramatiques particulières, dans la vie de l'écrivain, celui-ci provient seulement du fait que l'auteur s'est rendu compte jour après jour, matin après matin, de la fidélité, ce qu'il appelle personnel, de Dieu envers lui. L'auteur de ce chant, Thomas, son nom au milieu, c'est Obadiah, donc Abdias en français. Oui. Thomas Obadiah Chisholm, il est né dans une simple cabane de bois ronde au Kentucky, le 29 juillet 1866, et il n'avait ni éducation au niveau secondaire, ni formation avancée, mais il est devenu enseignant à l'âge de 16 ans.
Wow.
Alors, 5 ans plus tard, il devient rédacteur associé du journal hebdomadaire dans sa ville natale. Il s'est donné à Christ à l'âge de 27 ans, et quelques années plus tard, il a été ordonné au ministère dans l'église méthodiste. Mais il avait une santé fragile, et ça l'a poussé à abandonner le pastorat. Et il est devenu, comme tu peux l'imaginer, représentant d'assurance vie.
Ah ben pourquoi pas.
En tant qu'auteur, il a écrit plus de 1200 poèmes, dont plusieurs ont trouvé leur musique grâce à un homme du nom de William Runyon. C'est un pasteur musicien affilié au Moody Bible Institute à Chicago. Et Runyon a écrit à propos de ce chant, « Great is thy faithfulness ». Ce poème avait un si grand attrait que je priais avec ferveur que l'air que j'avais composé porte de manière digne son message. Et son emploi à travers l'histoire indique que Dieu a répondu à cette prière. Alors voici une version maintenant contemporaine de ce chant « Great is thy faithfulness ». Le groupe s'appelle « For Him ».
Et c'est sur ces quelques notes que nous allons nous quitter. Merci encore pour votre précieuse collaboration, cher Mac. Je vous souhaite un bon week-end, un bon jour du Seigneur demain.
Merci.
On a hâte de t'exposer à la prédication de la parole et la communion fraternelle. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été là. Si l'émission se termine sur cette note, on veut quand même rappeler qu'elle vous revient en rediffusion cet après-midi même à 17h30, à peu près, quoi, 1h30 après le terme de Joy for the Journey, right?
Tout à fait, ça arrive.
Alors, merci d'avoir été là et à bientôt, chers amis.
See you.